Bonsoir, 2100 $, c'est le montant qu'il faut payer en microtransactions pour avoir accès à l'ensemble du jeu Star Wars Battlefront 2, publié chez Electronic Arts. $2100 donc de microtransactions, il s'agit de paiements qui s'ajoutent au prix de la boîte du jeu, $60 pour débloquer des avantages, par exemple pouvoir jouer certains héros de légende comme Yoda. Mais rassurez-vous, on peut aussi débloquer les héros en jouant. Il suffit par exemple de jouer seulement 40 heures pour débloquer Dark Vador, sans compter le temps de chargement et bien sûr sans dépenser tous ces crédits accumulés en heures de jeu pour d'autres achats. Donc pour tout débloquer dans Star Wars Battlefront, il faut seulement jouer 4500 heures. Ça va.
Honnête.
Et pour les avantages, moindres que les héros, c'est même pas sûr en plus parce qu'ils s'obtiennent via ce qu'on appelle des loot box, c'est-à-dire des sortes de loteries qu'on achète avec des heures de jeu ou bien du vrai argent si on ne veut pas, et qui tire de manière aléatoire notre lot, qui peut être soit un super pistolet ou bien simplement une danse ridicule lorsque notre personnage gagne.
Eh ben, ils sont pas très gentils chez EA, dis donc.
Chez EA, oui, Electronic Arts. C'est ce qu'ont pensé la communauté des utilisateurs qui se sont regroupés sur Reddit. En effet, ils ont fait savoir leur mécontentement de manière assez claire, à tel point que le post de justification de Electronic Arts a été le post le plus disliké sur Reddit à ce jour. C'est que le modèle économique choisi par la compagnie est d'habitude plutôt utilisé pour des jeux gratuits, de type freemium ou pay to win, par exemple sur les applications mobiles. Le principe de ce genre de jeu est simple, il faut rendre votre jeu attractif mais aussi créer de la frustration, puisqu'à la fin, le seul moyen pour le joueur de satisfaire sa frustration va être de payer. Et on dit même que certains développeurs font exprès de mal développer certaines parties du jeu pour que vous payiez, pour pouvoir vous débarrasser de cette partie mal faite et continuer à jouer tranquillement.
Mais quand on a déjà payé plus de 50 euros pour un jeu, on essaye peut-être d'éviter cette course à la frustration.
Oui, c'est ce que reprochent les redditeurs à la compagnie. C'est bien la première fois qu'on voit du pay to win se développer sur un grand jeu de console. Mais pourquoi ce genre de système est utilisé depuis longtemps chez Electronic Arts. Est-ce que vous vous souvenez par exemple des Sims? Chaque extension du jeu était
qui
vendue.
Qui n'a pas été au collège, Robin.
Mais oui. Eh bien, souvenez-vous que chaque extension du jeu était vendue comme un jeu nouveau. En substance, il fallait payer 40 nouveaux euros pour pouvoir offrir un chiot à votre Sims.
Oui, mais en même temps, c'est développer le jeu mobile. Et comment est-ce que tu expliques que le pay-to-win ait mis tant de temps à être mis en place sur les jeux consoles?
C'est difficile, mais cette histoire me fait penser à un papier assez classique en économie qui a été écrit dans les années 70 par Walter Hoy. On appelle ça le dilemme de Disneyland. Il avait cette question de base, quelle était la meilleure manière pour le parc Disneyland de faire payer les gens? Il peut soit les faire payer une fois à l'entrée, ou bien à chaque fois qu'ils font une attraction, ou bien un petit mélange des deux. Eh bien, on sait bien que Disneyland paye qu'une fois, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Imaginez, on va supposer que les gens, ce qui est vrai, sont prêts à payer de moins en moins à chaque attraction qu'ils font, pour faire une attraction supplémentaire. Par exemple, vous êtes prêt à payer 10 euros pour faire une première attraction, 5 pour une seconde, 4 pour une troisième, etc. jusque 0. Imaginez que le prix d'une attraction soit 4 euros. Vous êtes d'accord pour faire le premier tour, le deuxième, le troisième, mais pas le quatrième. Et comme vous étiez prêt à payer pour le premier 10 euros, 5 euros ensuite, le parc va pouvoir vous faire payer la différence pour vous faire rentrer. Et donc si on fait ça par récurrence en gardant en tête que votre disposition à payer tend vers zéro, il est plus rentable pour le parc de vous faire payer une seule fois à l'entrée et que vous profitiez du parc de manière illimitée.
Du coup, cette théorie, si tu l'appliques aux jeux vidéo, ça irait plutôt dans le sens d'un prix unique et justement pas de ce pay-to-win.
Effectivement, mais ça explique pourquoi ça a mis tant de temps à se développer sur les jeux de console. Si on regarde les choses avec logique, on voit qu'on a un modèle et une réalité qu'on contredit. Donc soit le modèle est faux, soit il ne s'applique pas à cette réalité. Et je pense que c'est plutôt la deuxième solution. En effet, le jeu vidéo console correspond traditionnellement plutôt bien au parc d'attractions Disney. On a une suite d'expériences ludiques qui s'enchaînent sur un certain espace de temps. D'ailleurs, ça marche assez bien. Les applications mobiles ont un modèle assez différent qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle le gambling en anglais, des sortes de choses type machine à sous ou paris. Les machines à sous et Angry Birds, par exemple, reposent sur le même principe évoqué au début, une alternance entre récompense et échec qui crée une frustration sans cesse renouvelée et un espoir de gagner qui fait qu'on continue de jouer.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui payent effectivement dans ce genre de système.
En effet, quand on regarde la structure des revenus de jeux type pay to win, on voit que le gros des recettes vient d'un tout petit nombre de joueurs qui font de grosses dépenses entre 9 et 30 dollars. On les appelle les whales dans le jargon, les whales donc. Et c'est le cœur du problème avec ce nouveau jeu Star Wars. L'introduction des microtransactions transforme l'expérience du jeu en un jeu pour whales, c'est-à-dire du gambling. Et ça fonctionne bien pour les jeux pour smartphone, parce que le temps de la partie est court, il y a une alternance rapide, mais probablement que ça fonctionne assez mal pour les jeux de console traditionnels, qui proposent une expérience tout à fait différente, plus proche de l'expérience Disneyland. Et c'est probablement ce qui explique le mécontentement du joueur, mais bon, si les whales y donnent plus d'argent, c'est naturel que Electronic Arts les satisfait eux.
Merci beaucoup Robin pour cet édito économique toujours à la pointe de la technologie. Et avant de passer à la culture, une dernière petite actualité.